Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
Bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, en direct jusqu'à 20h30. Ce soir, nous parlons donc de Facebook. Facebook sous toutes les coutures, Facebook à 360 degrés, Facebook avec ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. Émission spéciale Facebook jusqu'à 20h30. Dans une première partie d'émission, nous passerons en revue l'actualité de Facebook, son modèle économique, Facebook et les fake news, Facebook et le régulateur, les régulations. Et nous serons pour en débattre avec quatre experts et journalistes. Emmanuel Paquette de L'Express, Amael Guiton de Libération, Zoé Cès de France Culture et puis pour la première fois dans cette émission, David Laveau, enseignant à Paris 10 Nanterre. David Laveau qui est aussi collaborateur et programmateur de cette émission Soft Power et qui a fait un travail de recherche sur Facebook et les médias. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
En seconde partie d'émission à 20h, on reste sur Facebook avec l'invité innovation, avec vous, Zoé Cès.
Il s'appelle Rémi Duron, il a publié en cette rentrée 2018 l'évangélisme technologique de la révolte hippie au capitalisme high-tech de la Silicon Valley, qui est une espèce d'analyse sociologique de comment est-ce que la Silicon Valley et certaines de ses entreprises les plus emblématiques, en premier lieu Apple, ont développé ce concept d'évangélisme technologique, ne pas tout développer mais donner envie aux meilleurs de développer pour soi. En quoi est-ce que ces géants tels que Apple, Google et pourquoi pas Facebook sont les héritiers ou pas de la culture hippie? On en parle avec lui, c'est passionnant.
20h10, le club de la presse numérique, nous parlerons de Facebook et du sport et notamment des évolutions des marchés et des ventes des droits du sport qui sont en train de se transformer, notamment avec l'entrée en scène d'acteurs comme Amazon et précisément Facebook. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Hour ce soir, spécial Facebook. Cette émission est réalisée par Véronique Villa avec en régie Morgane Danone. Elle a été préparée par David Laveau avec pour les réseaux sociaux Clara Brelot. Vous pouvez également suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Instagram, sur Spotify, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Je commence cette émission par un clin d'œil culturel en évoquant le livre de Jaron Lanier, 10 arguments pour supprimer immédiatement tous ses comptes sur les réseaux sociaux. J'ai déjà évoqué ce livre brièvement dans cette émission il y a quelques semaines lors de sa sortie, mais j'y reviens ce dimanche en préambule de notre émission sur Facebook. En général, les critiques de l'Internet s'en prennent aux GAFA, dont Facebook, ou aux patrons multimilliardaires de la Silicon Valley. En critiquant ainsi le nouveau capitalisme californien ou en réclamant plus de régulation, on s'achète, pour ainsi dire, une vertu à bon compte, car tout le monde, ou presque, est pour. Jaron Lanier n'est pas un activiste extérieur aux réalités. Il vient de la Silicon Valley. Il a été longtemps ce qu'on appelle un évangéliste, justement, du web. Et il a contribué, avec d'autres, à inventer, par exemple, la réalité virtuelle. Surtout, Jaron Lanier n'attaque pas les grands patrons du web, mais les simples utilisateurs. Il s'en prend aux membres de Facebook, Instagram ou Twitter, c'est-à-dire à nous. Selon Lanier, il ne dépend que de nous désintoxiquer aux réseaux sociaux, comme on arrête par exemple de fumer ou on choisit de faire un régime. Au-delà même des problèmes politiques, comme celui des fake news, de l'atteinte à la vie privée, de la question des données, Jaron Lanier s'intéresse aux effets toxiques de Facebook et des autres réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous rendent, moins sociaux, ils nous dépriment, attentent à notre bonne humeur et à notre sommeil, ils nous isolent et nous rendent plus agressifs. En consultant sans cesse son newsfeed, en scrollant constamment, en prenant des photos aussi postées sur Instagram qui appartient à Facebook, en consultant des messages de groupe sur Messenger ou WhatsApp qui appartiennent eux aussi à Facebook, nous devenons esclaves du social. À la fin du livre, Jaron Lanier, hier évangéliste et aujourd'hui agnostique d'Internet, ajoute un argument à ses critiques. En dépendant du web, on abandonne tout sens de spiritualité. On devient un robot et de moins en moins humain. On abandonne le sens du mystique. Hier, Lanier parlait comme Mark Zuckerberg. Maintenant, il parle comme André Malraux. Jean Lanier, 10 arguments for deleting your social media account right now, apparu en anglais, non encore traduit. Émission spéciale Facebook ce soir jusqu'à 20h30. Nous évoquerons en quatre parties dans cette première heure les limites et les dérives de Facebook, son modèle économique, les aspects serviciels, comment est-ce qu'on peut être sur Facebook, comment on peut y progresser également. Et pour commencer, avec quelques généralités, on va parler de Facebook en quelques dates et en quelques chiffres. Avec 2,2 milliards d'utilisateurs mensuels et une capitalisation boursière à environ 470 milliards de dollars, Facebook est aujourd'hui l'une des plus importantes sociétés au monde. Si Facebook était un pays, il aurait la population la plus vaste. La société de Mark Zuckerberg a plus d'adeptes que le christianisme catholique et protestant réunis. À 34 ans, Zuckerberg, qui a fondé Facebook il y a seulement une quinzaine d'années, est l'un des hommes les plus riches au monde avec une fortune évaluée à 60 milliards de dollars. Il contrôle à lui seul environ 60% des actions, des parts donc de Facebook, grâce à un contrat d'actionnariat qui lui donne des droits de vote privilégiés. Si on ajoute les valeurs boursières des quatre GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, leur montant combiné est supérieur au PIB de la France. Quelques chiffres, quelques dates, Emmanuel Paquette.
Bah oui, je pense que vous avez assez bien résumé la situation, sachant que peut-être... Petite précision, l'an dernier, l'entreprise a fait à peu près 40,6 milliards de chiffre d'affaires. Là, sur les 9 premiers mois de l'année, on est déjà à 38,9 milliards de dollars. Donc, c'est quasiment autant que l'année dernière, avec un bénéfice de 15,2 milliards, quand l'an dernier, on était à 15,9 milliards sur une année complète. Donc, Facebook va une nouvelle fois battre un record cette année sur l'année 2018, malgré une année très compliquée avec de multiples scandales dont on parlera un peu plus précisément au fil de l'émission. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis sont le premier pays représenté, hein, il y a à peu près 17 millions d'Américains qui sont présents sur le réseau social, et que ces Américains sont aussi ceux qui représentent la plus forte volume de consommation de publicité, puisqu'aujourd'hui, un utilisateur américain rapporte à peu près $6,5 par trimestre, à Facebook. Quand pour un Européen, on est à $3,2 par trimestre. Et quand pour un Asiatique sur la zone Asie-Pacifique, on est plutôt à $2,4. Et dans le reste du monde, donc notamment l'Afrique et l'Amérique latine, on est plutôt à $1,3. Donc on voit aujourd'hui que le bassin d'audience et le bassin surtout de rentabilité, de chiffre d'affaires pour Facebook, ça reste les États-Unis et le Canada. Et l'Europe devient le deuxième pilier très important. Donc au regard des scandales dont on va parler un peu plus tard, c'est vrai que l'Europe et les États-Unis sont aujourd'hui les deux principaux moteurs de Facebook. Donc il ne faut pas que ces moteurs s'enrayent. Et là, pour la première fois sur le dernier trimestre, on a vu qu'il y avait une baisse du nombre d'utilisateurs de Facebook en Europe. 1 million de moins, avec 375 millions d'utilisateurs en Europe. Alors que partout ailleurs, ça progresse. Aujourd'hui, le bassin de population le plus important pour Facebook, c'est l'Asie, avec 917 millions d'utilisateurs, juste devant le reste du monde, donc Afrique, Amérique latine, avec 736 millions d'utilisateurs. Donc on voit aujourd'hui qu'une minorité d'utilisateurs rapporte un maximum d'argent à Facebook. Donc ce sont ceux qui sont présents dans les pays développés. Donc il reste beaucoup de choses à faire dans les pays en développement ou dans les pays émergents.
Un mot sur Mark Zuckerberg. Comment est-ce qu'on pourrait définir cet homme de 34 ans, donc extrêmement jeune, sa personnalité, qu'est-ce qu'on sait de lui?
C'est un geek, Mark Zuckerberg, à la base. Et c'est quelqu'un qui
commence à développer à Harvard, etc.
Voilà, c'est alors pour la petite histoire, effectivement, la proto-version de Facebook, c'était même un truc qui était quand même pas très glorieux, où il avait posté des photos et
pour draguer des filles.
Voilà, il fallait voter pour la plus sexy.
Pour noter les filles.
pour noter les filles.
Et les draguer aussi, parce que généralement, ça suit.
Et ça s'appelait The Facebook.
Et effectivement, ça a vécu une croissance peut-être même que lui-même n'avait pas envisagé. Au départ, quand ça ouvre en 2004, c'est uniquement un répertoire effectivement pour étudiants d'Harvard. Et puis petit à petit, ça s'étend à d'autres facs. Et puis 2 ans plus tard, ça ouvre au public. Et alors à partir de là, on a effectivement une espèce de courbe ascendante dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'elle va devenir, parce qu'on y reviendra. mais effectivement 2018 a été très compliqué. Et c'est vrai que ça explique d'ailleurs parfois un peu la difficulté qu'a pu avoir Mark Zuckerberg, notamment quand il a été passé sur le grill par des parlementaires américains, puis par des parlementaires européens, etc. Il lui a fallu énormément de media training, manifestement, parce que c'est pas son tempérament de départ, quoi. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui est confronté à la crise de croissance de sa start-up, quoi.
Zoé Sfez.
Bah écoutez, voilà, 34 ans, un homme qui entre-temps donc s'est marié à une de ses camarades d'Harvard, qui est une jeune pédiatre américaine et qui a fait avec elle une fondation, qui a promis de se délester de ses actions sur Facebook, qui étaient de 99% au début, au fur et à mesure au profit de sa fondation, mais qui garde, et c'est quand même un petit peu, on va y revenir à la fin, tout pouvoir en fait sur le conseil d'administration. Il a été question au cours de cette année, il y a eu clairement des investisseurs, c'est-à-dire parmi les actionnaires indépendants, qui ont demandé sa démission, en disant que pour des raisons éthiques, c'était pas sain que cet homme reste en place. Il a évidemment jamais démissionné, et en plus, il y a tout un système de vote des actionnaires chez Facebook, de type A ou de type B, qui fait qu'à la fin, ça reste lui et ses proches qui ont toujours le pouvoir. Donc c'est un petit geek, mais qui a encore tous les pouvoirs sur l'animal qu'il a créé, et ça, c'est pas, et qui ne compte pas vraisemblablement s'en défaire avant un certain bout de temps.
Pour terminer ce tour de table, juste de chiffres, David Lavaux, mais juste avant, Emmanuel, vous citiez le chiffre de 19,6 millions d'utilisateurs aux États-Unis, c'est bien sûr 196 millions aux États-Unis.
C'est 242 millions aux États-Unis sur le dernier trimestre.
Voilà, enfin en tout cas c'est plusieurs centaines de millions, oui. Et non pas quelques dizaines. Juste une précision aussi en termes de chiffres, si on veut évaluer Facebook en termes de photos, c'est 350 millions de photos ajoutées chaque jour. Au total, il y en a 240 milliards qui sont stockés actuellement dans les serveurs de Facebook. Et on peut rappeler aussi que, comme phénomène, surtout chez les jeunes de 18 à 34 ans, la plupart, 48% de ces jeunes, se connectent dès le réveil à Facebook pour savoir ce qui s'est passé peut-être pendant la nuit. David Lavaux, sur ce sujet.
Oui, sur les 14 premières années de Mark Zuckerberg à la tête de Facebook, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce soit à Harvard, quand il était sur des prototypes, et aujourd'hui, quand il s'agit d'un réseau social qui compte plus de 2 milliards d'utilisateurs, il reste sur cette idée, lui, quand il en parle, de vouloir rassembler les gens, connecter les gens ensemble. Et donc, c'est un point sur lequel il est resté, en fait, sur cette même ligne, de Harvard à aujourd'hui, Menlo Park et à cette entreprise qui touche plus de 2 milliards d'utilisateurs.
Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment le groupe, puisque Facebook, c'est un emblème, c'est un réseau social que presque tout le monde utilise, mais c'est aussi tout un tas d'autres services, et on sait souvent pas qu'il s'agit de Facebook, lorsqu'on est sur WhatsApp, lorsqu'on est sur Instagram, lorsqu'on envoie des messages sur Messenger, de manière un peu plus anecdotique, mais malgré tout, lorsqu'on utilise Oculus, on est également chez Facebook, Amal Guiton.
Bah, on le sait de plus en plus quand même, parce que alors effectivement, WhatsApp, c'est 2014 le rachat
pour 19 milliards.
Voilà, ouais. Instagram c'était plus tôt, c'était en 2012. On le sait aussi de plus en plus d'ailleurs parce que Facebook communique de plus en plus là-dessus et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés notamment en Europe à une diminution du nombre d'utilisateurs, mais je pense que l'Europe est un cas probablement un peu particulier pour des tas de raisons de sensibilité à la question de la vie privée, l'entrée en vigueur du règlement européen, etc. Mais du coup, comme ils sont effectivement, ça diminue en Europe, ça stagne. Aux États-Unis, au Canada, ça se développe par ailleurs sur de nouveaux marchés. Ils communiquent beaucoup sur le fait qu'il y a 2,6 milliards d'utilisateurs qui utilisent chaque mois au moins un de leurs services. Et donc là-dedans, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Instagram essentiellement. Donc eux-mêmes et Messenger, qui au départ n'était jamais d'ailleurs
Facebook, ouais,
qu'une fonctionnalité de Facebook et qui a acquis, on va dire, son existence propre un peu
autonome. Comme ça,
voilà,
ouais.
C'est un peu ça. Mais ils en font même un argument maintenant notamment pour la question de la publicité qui est leur modèle économique.
Alors sur ce sujet justement, Emmanuel Paquette, il y a une sorte d'intégration de tous ces services qui échangent des données et qui d'une certaine manière peuvent se monétiser l'un l'autre.
Oui, alors l'idée effectivement au départ, c'était il y avait même une promesse de Facebook lors du rachat de WhatsApp et d'Instagram de ne pas justement mêler les informations et de pas croiser les informations entre un profil Facebook et un utilisateur de WhatsApp. Il se trouve que cette promesse n'a pas été tenue, puisque la Commission européenne a infligé une amende de 110 millions d'euros à Facebook, puisqu'ils ont eu la preuve que Facebook arrivait à... Et Facebook le même l'ont reconnu, hein, que lorsqu'on voulait s'inscrire sur WhatsApp, il fallait notamment, il faut toujours donner son numéro de téléphone, et son numéro de téléphone permettait de croiser le profil Facebook de l'utilisateur. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un croisement des données qui font que les deux fondateurs de WhatsApp ont décidé de quitter la société après un différend assez important avec Mark Zuckerberg. Donc Ian Koum et Brian Acton ont quitté le premier en 2017, le second là il y a quelques mois en 2018 l'entreprise. Et Brian Acton a même donné une interview dans la presse américaine disant qu'il avait vendu la vie privée des utilisateurs et qu'il n'aurait jamais dû le faire. Et il a même lancé aussi un hashtag sur au début d'année sur sur Twitter disant effacez Facebook, retirez-vous de Facebook. Donc on voit qu'il y a une fronde qui est menée par des anciens qui étaient auparavant intégrés directement chez Facebook.
David Lavaux.
Et en France, c'est la CNIL qui a condamné Facebook à une amende de 150 000 euros pour justement avoir profité de la multiplicité de ses services pour accumuler des données qu'il n'aurait pas eu via un seul de ses services. Donc ça, c'était, il me semble, l'année dernière, en 2017.
Amal Guiton.
Non, puis c'est intéressant de voir qu'effectivement, ça percole petit à petit. C'est-à-dire que maintenant, la pub sur Instagram, il y en a. Enfin, tous les utilisateurs s'en rendent compte. Notamment au milieu des stories, il y a des tas de contenus sponsorisés.
Souvent toutes les 5 stories, d'ailleurs.
À peu près. Et la prochaine étape, c'est l'apparition de la pub sur WhatsApp. Moi, d'ailleurs, j'attends de voir quelle va être la réaction des utilisateurs de WhatsApp, parce que c'est pas du tout la même chose.
Oui, c'est une sorte de...
Sur un réseau social...
C'est des SMS,
Où on se partage des contenus et où il y a effectivement... Entre guillemets, on a un peu l'habitude, même si on peut y réagir plus ou moins bien, mais de contenus sponsorisés, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Voir apparaître des publicités dans une application qui est une application de communication avec d'autres et qui est de l'ordre de la messagerie, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à avaler, même si bon, on sait bien que Google, qui possède Gmail, fait aussi de la pub et fait aussi apparaître des pubs dans un onglet de Gmail. Donc,
Mais ça a déjà commencé sur Messenger. Il y a déjà des publicités qui s'affichent dans des dialogues.
Depuis cet été, je crois. Mais effectivement, alors ce qu'il y a eu aussi, vous l'avez dit, Amal, non seulement ils communiquent dessus, mais en plus on a vu clairement, ça tout le monde l'a vu, des trucs qui marchent bien s'importer d'un réseau à l'autre. Notamment, je pense évidemment aux stories qui marchent très bien sur Instagram, et on vous propose systématiquement quand vous en faites une de la publier sur Facebook où ça marche beaucoup moins bien. Mais au-delà de ça, on n'a pas parlé d'Oculus. Oculus qui est quand même un espèce de pas de côté de la part de Facebook. Donc c'est une start-up qui construit des casques de réalité virtuelle et qui d'ailleurs, depuis quelques années, depuis qu'elle a été rachetée par Facebook, qu'il a acheté quasiment à ses débuts alors qu'elle venait de terminer sa levée de fonds, un casque en réalité virtuelle révolutionnaire de très bonne qualité, pas si cher que ça, destiné essentiellement aux joueurs de jeux vidéo, a été racheté par Facebook. Puis ensuite, elle a elle-même racheté toute une série de start-up qui travaillent sur la reconnaissance par les mains, par exemple. Et là, on est vraiment sur, disons, un autre volet. Pour le moment, ce casque existe, il est essentiellement destiné aux jeux vidéo. Mais le but, d'ailleurs affiché de Mark Zuckerberg, c'est à terme d'avoir une espèce de plateforme... Et par ce casque, d'accéder à toute une vie virtuelle où vous accéderiez à des jeux vidéo, à des films, mais aussi à une espèce de vie sociale par procuration dans la réalité virtuelle. Le casque en lui-même coûterait rien, mais ce serait la plateforme sur laquelle il faudrait investir. Donc là, tout ça, c'est qu'encore les prémices. Ça fait, je crois, 4 ans qu'il l'a racheté, et Mark Zuckerberg, et que ça n'est pas encore arrivé à ce qu'il avait probablement voulu beaucoup plus tôt. Mais il y a clairement un chapitre nouveau qui peut potentiellement s'ouvrir et réduire la dépendance, disons, du groupe au réseau social en lui-même, dans son aspect les plus limités, on va dire.
David Lavaux.
Sur les recherches menées en interne et développées par Facebook, il y a tout un volet effectivement sur la réalité virtuelle, mais aussi en intelligence artificielle, pour essayer notamment d'identifier dans les contenus qui circulent sur Facebook, notamment les contenus vidéo, des produits. Par exemple, pour imaginer une bouteille de vin dans une vidéo, et l'idée, ce serait à terme que l'intelligence artificielle soit capable de reconnaître cette bouteille au point que le spectateur de la vidéo puisse même l'acheter sans avoir à quitter Facebook et sans avoir à sortir de cette vidéo.
Et puisse visiter un appartement, ou puisse acheter, en fait, ça. Puis c'est aussi qu'il y a des groupes français comme Vente Privée, par exemple, qui travaillent sur ces questions pour, au lieu de vous faire acheter un canapé, vous n'allez jamais l'acheter tout court, vous allez le faire la même chose, mais du coup, ça ouvre complètement un autre pan.
Alors avant de continuer, de rentrer dans un certain nombre de détails, peut-être une question à Emmanuel Paquette. En 2006, donc il y a finalement très très longtemps, à l'heure du numérique, Yahoo avait proposé de racheter Facebook pour 1 milliard de dollars. Toute la direction de Facebook et les actionnaires voulaient ce deal, sauf Mark Zuckerberg lui-même, et Facebook est resté indépendant.
Oui, et peut-être bien lui en a pris, puisque Yahoo a fait une série d'acquisitions extrêmement coûteuses
tout
au long de sa vie, et aucune n'a véritablement explosé, elles ont toutes plus ou moins fermé, puisque le but de Yahoo, c'était d'intégrer directement les services dans le portail, et d'intégrer tous les services existants au niveau de la Maison Verte, hein, à ce niveau en Californie, dans la Silicon Valley. Facebook a une approche un peu différente, et comme celle de Google d'ailleurs, qui était un peu plus maligne, qui est en cas d'acquisition, de garder les équipes en place, de leur promettre une totale indépendance, et de les laisser vivre de leur côté. Donc ça a bien réussi à YouTube hein, aujourd'hui, puisque YouTube a pu croître chez Google avant que les fondateurs ne quittent la société finalement. Et ça a bien fonctionné aussi pour WhatsApp et Instagram, jusqu'à aujourd'hui, puisque là, les fondateurs d'Instagram, puisqu'on ne l'a pas dit, mais Kevin Systrom et l'autre cofondateur ont quitté Facebook là il y a quelques mois. Et chez WhatsApp, c'est la même chose. Donc, on va voir maintenant que les deux services vont être intégrés chez Facebook et à la culture d'entreprise de Facebook, si ces deux services vont continuer à perdurer et à croître surtout.
Je vous propose, avant de continuer cette émission complète spéciale sur Facebook, je vous propose d'écouter maintenant ce morceau atypique du rappeur et chanteur pop Frank Ocean avec la voix du français Sébastien en guest invité. L'histoire s'appelle, évidemment, Facebook Story. La voici. Un homme raconte qu'il est en couple depuis 3 ans avec une fille jusqu'au moment où Facebook arrive. La fille lui demande de l'accepter comme ami sur Facebook. Il refuse car pour lui Facebook c'est virtuel et comme ils sont ensemble, eh bien c'est bien réel. La fille, ça la rend folle, folle de jalousie. Elle croit qu'il la trompe et elle finit par rompre avec lui. Frank Ocean et Sébastien sur France Culture.
No, I was just telling that I got this girl before and I was together since 3 years and I was not even cheating her or what and Facebook arrived and she wanted me to accept her on Facebook and I don't want it because I was like in front of her and she told me like accept me on Facebook. It was virtual, means no sense. So I said I'm in front of you, I don't need to accept you on Facebook. She started to be crazy. She thought that because I didn't accept her, she thought I was cheating. She told me, like, it's over, I can't believe you. I said, come on, you're crazy. So, like, I'm in front of you, I'm every day here in your house. But it means, like, it's jealousy, pure jealousy, for nothing. You know, virtual thing.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Voilà, on reconnaissait bien la voix du un peu accent français
bon accent
de
français.
Sébastien dans l'album. Ce morceau d'ailleurs un peu qu'on connaissait pas très bien sur un album pourtant très célèbre de Frank Ocean. Soft Power ce soir en direct jusqu'à 20h30. On parle de Facebook sous tous les aspects, Facebook à 360 degrés, Facebook sous toutes les coutures. Alors après une introduction où on a évoqué un certain nombre de points assez généraux, on va rentrer maintenant dans un certain nombre de détails. On parlera tout à l'heure d'aspects sportif avec vous, Zoé Sfès, de l'histoire même de Facebook dans la matrice de la Silicon Valley. On parlera de comment être, de comment réussir hein, sur Facebook, comment être plus visible, comment faire des Facebook Live ou poster des photos. On parlera des limites, des dérives et des problèmes de Facebook. Mais on commence par le modèle économique. Modèle économique de Facebook qui fonctionne d'abord et avant tout sur la publicité avec son micro-targeting et ses publicités ciblées. Facebook a inventé un modèle économique ultra rentable. David Lavaux, Facebook a aujourd'hui un chiffre d'affaires publicitaire supérieur à tous les journaux américains réunis.
Oui, effectivement, aujourd'hui, le marché publicitaire, c'est 89% des revenus générés par Facebook. En fait, le principe, c'est, vous l'aurez remarqué, l'accès à Facebook est gratuit pour un utilisateur. C'est-à-dire que tous les mois, l'utilisateur n'a pas à payer quoi que ce soit pour accéder au service. Mais comme Emmanuel Paquet le disait tout à l'heure, chaque utilisateur rapporte de l'argent
sans le savoir,
Facebook,
presque.
Oui, d'une certaine façon. Et en fait, tout ça est basé sur le fait que l'utilisateur, quand il utilise Facebook, il laisse des tas de données sur ses centres d'intérêt, sa géolocalisation, ce genre de choses. Et Facebook, à partir de récupère ces données, les analyse, les traite et en crée des profils. Et en fait, ces profils vont être vendus à des annonceurs, donc à des organisations, des entreprises.
De manière anonyme, tout ça est anonymisé.
Tout ça est anonymisé. C'est pour ça que je parlais plutôt de profil que d'utilisateur. Et donc les annonceurs vont venir payer pour, par exemple, cibler quelqu'un qui est plutôt jeune et qui vit en région parisienne ou quelqu'un de plus âgé. Et donc c'est ces données que Facebook récupère et ensuite va aller utiliser pour vendre un service à des annonceurs.
Et a transformé radicalement, Emmanuel Paquette, l'état, au fond, de la publicité qui n'est plus comme elle était avant.
Alors, oui, en fait, le ciblage a toujours existé en publicité. Là, il est beaucoup plus fin. Beaucoup plus, il y a une granularité beaucoup plus fine vis-à-vis des internautes qui peuvent être inscrits sur le service. Et puis il y a aussi des volumes qui sont tellement importants, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a 2,2 milliards d'utilisateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui le coût d'accessibilité à une campagne Facebook est très faible, puisqu'en fait Facebook propose des campagnes à prix quasiment cassé, et vu le volume de personnes qui peuvent être touchées, il y a beaucoup d'annonceurs qui peuvent s'inscrire et acheter des campagnes. Donc ils font une concurrence à tous les autres annonceurs, y compris la presse traditionnelle, hein, d'ailleurs sur Internet, avec des tarifs qui sont, un, très bas, deux, très ciblés. Pour s'en rendre compte, il suffit simplement d'aujourd'hui de regarder un petit peu, tout le monde est en train de regarder un peu ses achats de Noël sur Internet. Quand on se connecte après sur son profil Facebook, bien souvent, puisque moi ça m'est arrivé et je pense que ça arrive à tout le monde, on retrouve des pages qu'on a pu visiter chez des commerçants s'afficher directement sur Facebook pour faire un achat qu'on a déjà regardé mais pas encore réalisé. Donc ce qui veut dire qu'il y a des croisements de fichiers entre ce qu'on a pu visiter à l'extérieur de Facebook et Facebook, donc tout ne se passe pas dans Facebook. Et pour finir, Facebook achète même des bases de données de la vie réelle, hein, puisque ils ont passé des accords avec des établissements bancaires par exemple ou des boîtes de marketing direct, et donc ils peuvent avoir accès à des profils et savoir ce que vous faites à l'extérieur d'Internet dans la vie réelle en termes d'achat, et croiser ça avec votre profil pour vous proposer des produits ou des services qui vous seront directement liés à votre profil et à vos besoins.
Amaël Guitton de Libération.
Oui, il y a effectivement deux aspects. C'est un hub Facebook, hein, c'est ce que disait Emmanuel. C'est
un grand carrefour.
Ouais. Tout le monde est dessus, donc effectivement pour des annonceurs c'est quand même hyper intéressant. Et puis alors effectivement la précision de ce qu'on peut avoir, c'est vrai que c'est parfois assez vertigineux, parce que on le voit, hein, dans les pages sur le site de Facebook destinées aux annonceurs, ils expliquent très bien qu'on peut cibler par origine géographique, par âge, par sexe, mais aussi par centre d'intérêt, par établissement scolaire fréquenté, par événement marquant. C'est-à-dire on peut cibler par exemple les gens qui se sont fiancés dans les trois derniers mois. Donc on a effectivement une précision qui est assez folle, sachant que effectivement
avec parfois des erreurs. On connaît bien la fameuse blague sur les prêtres. Un prêtre qui arrive, il dit il est célibataire, il reçoit des centaines de messages qui lui proposent de trouver une copine, ce qui est évidemment un peu lié à son célibat, mais qui débouche pas obligatoirement sur une réalité.
Avec des erreurs
obligatoirement.
Et, ouais, avec des erreurs et par ailleurs avec des dérives. Hein. C'était une enquête qu'avait publié le média d'investigation ProPublica. Dans mes souvenirs, c'était fin 2016. Il montrait que par le jeu, effectivement, du croisement de données et de l'établissement algorithmique de profils publicitaires, il était par exemple parfaitement possible de faire une campagne publicitaire destinée aux utilisateurs antisémites. Voilà, typiquement. Et là, on voit bien, effectivement, toutes les dérives de ce modèle. C'est-à-dire que la précision, elle peut aussi aller jusque dans ces aspects-là, quoi.
David Davo.
Sur les critères, justement, qui pourraient être discriminants, comme là, on citait l'antisémitisme à l'instant, Facebook, juste en août dernier, a commencé à être attaqué par le ministère du Logement américain sur, justement, la possibilité d'utiliser les critères de ciblage pour discriminer des utilisateurs. Donc Facebook a retiré 5000 critères qui avaient notamment essentiellement attrait soit à l'orientation sexuelle, soit à la religion des utilisateurs.
Alors tout ça renvoie à une question centrale, c'est celle de l'algorithme, le fameux algorithme de Facebook. En réalité, sans doute, plusieurs algorithmes. Des algorithmes travaillés par des centaines, sans doute, d'ingénieurs pour obtenir une précision dont personne ne connaît vraiment la clé, et avec des critères qui ne sont pas juste ceux qu'on vient d'évoquer, mais en réalité des centaines, peut-être des milliers de critères croisés selon des méthodes. Aujourd'hui, d'analyse algorithmique extrêmement complexe sur ce sujet des uns les autres.
Mais il y a un côté boîte noire, hein, depuis le début. Et d'ailleurs pour ceux d'entre nous et ceux qui nous écoutent qui sont sur Facebook depuis longtemps, mettons 4, 5, 6, 7 ans, on voit bien aussi comment le fameux newsfeed entre guillemets, c'est-à-dire le fil d'actualité qui s'affiche quand on arrive sur le site, comment il a évolué et comment d'ailleurs les changements peuvent peuvent affecter, enfin peuvent avoir des effets massifs. Mmh. La dernière fois qu'il y a eu ce débat, c'était en janvier de cette année, quand Facebook a annoncé que pour lutter contre la dissémination des fake news, ils allaient privilégier les contenus postés par les amis.
Et pas par les pages.
Au détriment des contenus, des pages qu'on a likées, auxquelles on est abonné, etc. Bon, on peut d'ailleurs discuter de l'efficacité de la mesure, parce qu'il y a aussi énormément de fake news qui passent par
les amis,
par le cercle proche, donc il n'est pas du tout certain que ce soit efficace. Mais on a vu une réaction très forte, notamment des médias, parce qu'effectivement, la contrepartie immédiate, c'est que les contenus proposés par les médias se voient moins qu'avant.
Sur cette question, David Lavaux, page, on a parlé des comptes, des pages, c'est quoi la différence?
Oui, en fait, en tant qu'utilisateur lambda, on va dire, chacun crée un compte, c'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, on a son compte qu'on peut avoir sous son propre nom ou alors éventuellement sous un pseudo. Et les pages, c'est tenu plutôt par des organisations, des entreprises,
des médias, personnalités. Instant,
tout à fait. Et les pages sont davantage dans une stratégie de croissance en termes de likes, c'est-à-dire de personnes, donc de comptes utilisateurs qui sont allés aimer cette page plutôt qu'une autre. Et par exemple, tous les médias ont leur page. France Culture a sa propre page qui compte, il me semble, plus d'1,5 million de likes.
Alors, ce qui est intéressant dans ces pages, qui sont très peu nombreuses, il y en a à peu près 50 millions de pages par rapport au nombre d'utilisateurs de Facebook, dont on a dit que c'est plus de 2 milliards. La particularité de ces pages, c'est que les messages qui y sont postés ne sont pas obligatoirement vu par ceux qui les ont pourtant likés.
Oui, en fait, selon la taille des pages, on estime qu'entre 8 et 10% des personnes qui suivent, qui aiment ces pages, seraient touchées par une publication.
Quels sont les critères qui vont permettre à un contenu venant d'une page d'être beaucoup plus lu et accessible?
Donc là, on rentre vraiment dans les problématiques liées à l'algorithme de Facebook. Donc en fait, il y a des bonnes pratiques qu'on connaît plus ou moins. Notamment, ces deux dernières années, depuis 2016, il y a un boom, on va dire, du format vidéo sur Facebook. Et donc, on a vu que dès qu'il y avait une vidéo dans un contenu posté, les contenus touchaient plus de monde que si c'est un simple texte ou un simple texte avec une image. Donc, par exemple, la qualité des contenus fait partie... impacte le pourcentage de personnes.
Au-delà de cette qualité, il y a aussi si ce contenu va être liké, par exemple, s'il va être partagé, s'il va être commenté. Tout ça permet de passer de ces 8% pour une page à parfois 20, 30, voire bien au-delà, puisqu'elle peut faire 600 fois, 800 fois plus que son nombre de followers traditionnels.
Évidemment, c'est tout ce que Facebook en fait appelle l'engagement, c'est-à-dire on parlait des likes à l'instant, vous avez mentionné les partages. Maintenant, il y a toute une série de réactions qui permettent de montrer plus ou moins son rapport à une publication, et tout ça participe de la circulation plus ou moins importante d'un contenu à partir d'une page. Après, l'autre moyen aussi de booster la diffusion d'un contenu à partir d'une page, c'est de passer par les outils de promotion de Facebook.
Et donc la publicité, voilà. Donc d'acheter publicité. De l'espace.
Voilà. Et bien là, c'est quand même un des autres moyens pour Facebook de gagner sa vie, c'est-à-dire l'achat de... Et puis il y a aussi l'achat de fans pour ces pages, il y a l'achat de visibilité, c'est-à-dire que c'est aussi un moyen, c'est de promettre à des gens qui ont des pages une plus grande visibilité, ça c'est un moyen. Pour revenir sur le ciblage publicitaire, vous avez quand même tous plus ou moins une potentielle, disons, mainmise sur ce qui se passe, que quand vous allez dans vos réglages Facebook, vous allez voir qu'on vous demande de... Vous pouvez choisir quel type de centre d'intérêt vous avez, vous pouvez en enlever. Vous pouvez faire comme je l'ai fait pendant une semaine, vous amuser à enlever toutes les pubs que vous voyez. Et on vous demande d'expliquer la raison pour laquelle vous les enlevez. Est-ce que c'est parce que c'est un truc qui vous gêne ou est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui ne vous va pas? Et les pubs bougent quand même un petit peu, c'est pas inintéressant de le dire. Moi je voulais juste faire un tout petit aparté sur évidemment, on va le comprendre et on va continuer à en parler, ces questions de ciblage publicitaire sont au cœur de ce qui pose problème aujourd'hui dans Facebook. C'est parce qu'il y a ce ciblage publicitaire si fin qu'il y a des problèmes de données, en grande partie à cause de ça. Et en interne, on sait que, et il y a 4 ans et à nouveau cette année, Facebook teste ou envisage la possibilité de peut-être changer complètement de modèle. Ça fait partie des propositions, disons, qui sont étudiées, mais pas si sérieusement que ça en interne, celle de devenir, eh ben, pour régler une immense partie des problèmes que Facebook rencontre aujourd'hui, passer à un abonnement. Ça, je ne sais pas si vous l'avez lu, un abonnement qui serait évalué entre 12 et 14 dollars. L'idée, ce serait, voilà, vous payez pour Facebook et on enlève la question de la pub. Évidemment, ce n'est absolument pas une piste qui est sérieusement aujourd'hui sur la table.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors là, on parle de ciblage. En réalité, la vraie tendance aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le reciblage. C'est-à-dire que vous êtes déjà ciblé une première fois aujourd'hui quand vous allez sur Internet, avec vos cookies, ce que vous laissez quand vous visitez un site Internet. L'idée, c'est de vous recibler en fonction de votre comportement, qui n'a pas été jusqu'au bout d'un achat, de comprendre pourquoi vous n'avez pas été au bout de l'achat, et de vous recibler quelque part, notamment sur Facebook, pour vous reproposer un produit que vous avez déjà pu visionner, mais que vous n'avez pas acheté, et d'essayer de comprendre et de vous pousser à le faire, avec, ça peut être avec des coupons de réduction, en disant, visiblement, vous avez vraiment envie de ce livre-là, ou de ces vacances-là, par exemple, et ben on vous le propose avec un coupon de réduction. Donc le reciblage, c'est quand même la grande tendance aujourd'hui d'Internet. Et ce qui permet aujourd'hui de le faire, ce reciblage, c'est Facebook, son l'effet réseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit Facebook comme un réseau social, en réalité sa puissance vient de l'extérieur de Facebook, c'est-à-dire que les sites médias comme France Culture, Libération ou d'autres, permettent d'apprécier, de liker par exemple des articles. Si on like un article, Facebook va savoir quel type de contenu vous intéresse. À partir de là, on peut même cibler, par exemple, pendant une campagne présidentielle, si on voit qu'à un moment donné, vous lisez que des articles qui touchent au Parti Socialiste ou à En Marche, il y a de fortes chances que vous soyez plutôt pro-En Marche ou pro-Parti Socialiste. Et à ce moment-là, vous ne serez même pas encore allé sur Facebook, que Facebook connaîtra déjà vos goûts. Donc, d'une certaine manière, tous les médias traditionnels, y compris les vôtres, les nôtres,
nourrissent
Facebook et nourrissent la machine à publicité de Facebook. Et dernier point, concernant la vidéo, c'est vrai que le reach est plus important, donc la capacité d'atteindre est plus importante sur Facebook quand on utilise la vidéo. C'est pour une raison simple, c'est que la publicité vidéo se vend beaucoup plus cher qu'une vidéo écrite. Et Facebook pousse la vidéo publicitaire, puisque ça lui fait gagner beaucoup plus d'argent. Et donc, elle a tendance à pousser le reach d'un utilisateur ou d'une page qui affiche de la vidéo.
Ahmed Guiton.
De toute façon, à partir du moment où effectivement tous les médias ont intégré le bouton like de Facebook, ils sont devenus partie prenante de cet écosystème. Ça participe y compris de la construction de ce qu'on appelle les shadow profiles, c'est-à-dire que Facebook a aussi des données sur des gens qui ne sont pas du tout des utilisateurs, mais justement par le jeu des cookies, etc. Et c'est d'ailleurs une question qui leur a été assez régulièrement posée ces derniers mois, à laquelle ils ont, faut dire, beaucoup de mal à répondre. Et moi, je suis assez curieuse de voir quel va être l'impact à terme du fameux règlement européen sur la protection des données. Parce que ça offre quand même, même si la mise en place est compliquée, mais ça offre aux internautes la possibilité de refuser à la fois le ciblage et le reciblage, justement, en bloquant un certain nombre de choses.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
Ce soir, nous parlons de Facebook. Facebook dans tous ses aspects. Facebook à 360 degrés. Nous sommes avec Emmanuel Paquet de L'Express, Samuel Guiton de Libération, David Laveau, enseignant à Paris 10 Nanterre, et Zoé Sfès de France Culture. Alors, on a parlé des points positifs, déjà d'un certain nombre de critiques. Je vous propose d'entrer dans le débat des limites et des dérives de Facebook. Nous avons évoqué donc modèle économique, les forces et opportunités de Facebook, les limites maintenant, les dérives, les menaces qui pèsent sur la société, notamment du fait des fake news, des régulations ou des abus de position dominante. Et là, évidemment, Emmanuel Paquet, on commence avec vous par l'actualité un peu récente qui est un nouveau rebondissement, d'une certaine manière, de l'affaire Cambridge Analytica, dont on peut peut-être reparler pour comprendre ce qui a été révélé ces derniers jours.
Oui, alors l'affaire Cambridge Analytica, effectivement, c'est la découverte que Facebook avait un partenaire, donc cette société qui s'appelait Cambridge Analytica, qui a pu cibler des utilisateurs américains pendant la campagne
87
Trump,
millions d'entre eux.
Voilà, pour essayer de favoriser l'élection de Donald Trump. Alors, on ne connaît pas l'influence réelle de Cambridge Analytica auprès de ses utilisateurs, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'algorithme et la finesse de Facebook a permis de cibler directement des électeurs et de faire ou de défaire, certains l'affirment en tout cas, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc aujourd'hui,
S'est fait tout à fait légalement. Simplement, ils sont allés, ils ont réussi à pénétrer pour une part d'utiliser des données. Et là, pour le coup, c'était moins légal d'une certaine
manière. C'est-à-dire qu'ils ont pu croiser des données. Cambridge Analytica a pu croiser les données avec des données Facebook qui aujourd'hui, qu'ils avaient aspiré et qui étaient laissés un peu en libre accès. Alors Facebook dit que c'était une erreur de leur part, qu'ils l'avaient pas fait exprès. Donc c'est compliqué de savoir quelle est la part de on n'avait pas fait exprès, on n'avait pas fait attention, et la part de ça a été utilisé d'une manière dont on n'avait pas imaginé que ça puisse être utilisé, à savoir nuire à une démocratie. Je veux dire qu'aujourd'hui on passe en 7 ans, 2010, je vous rappelle, Facebook c'était le réseau social qui fait le printemps arabe quand même, donc qui crée, qui déstabilise des régimes autoritaires, à celui de l'hiver russe de 2017 où là en gros on voit un réseau social qui déstabilise une élection américaine par, soi-disant, des intérêts russes.
Sur le printemps arabe, il y avait d'autres acteurs, Al Jazeera et quelques
Exactement,
autres.
Exactement, mais la question est de savoir, dans les deux cas, est-ce qu'on n'a pas surestimé la puissance de Facebook? Est-ce que Facebook n'a pas fait les printemps arabes? Est-ce que Facebook a fait ou défait l'élection américaine? Ça aussi, on peut toujours se poser la question.
Amal Guiton.
On peut effectivement d'autant plus se poser la question que c'est un peu un mantra, effectivement, du camp démocrate. Mais,
Parce qu'ils ont perdu aussi.
Oui, mais parce qu'ils ont perdu.
Ils auraient gagné.
D'une certaine manière, c'est aussi une manière commode de ne pas se demander ce qu'on a pu rater pendant une campagne ou ne pas se demander quel était l'état de la société américaine. Parce qu'on voit bien aussi que ces manipulations ont appuyé sur des points de fracture qui étaient déjà présents et ne les ont pas créés. Juste un petit mot sur Cambridge Analytica, c'est que ça a révélé un problème qui était déjà ancien, qui est celui des applications tierces. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook,
vous autorisez des applications à utiliser vos données.
Hein. Oui, vous loguez avec Facebook sur, je sais pas, moi, des questionnaires de personnalité, des jeux, etc.
Et on s'est
rendu compte avec Cambridge Analytica que les applications tierces pouvaient avoir accès à des tas de données, c'est-à-dire l'identité des utilisateurs, mais pas seulement leur réseau de contacts, leurs likes et les mêmes données pour leurs amis. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un côté open bar avec ces applications tierces dont a effectivement totalement profité Cambridge Analytica.
Que s'est-il passé, Emmanuel Paquet, cette semaine, donc des nouvelles révélations en Angleterre?
Il se trouve que jusqu'à maintenant, Mark Zuckerberg s'était refusé à venir s'expliquer devant le Parlement britannique sur l'affaire Cambridge Analytica. Il avait plutôt envoyé soit Sheryl Sandberg, soit des spécialistes, des lobbyistes de Facebook. Et là, il se trouve qu'il y a eu des révélations de The Observer, donc un journal britannique qui a diffusé un article il y a quelques heures de cela, disant qu'une société qui avait porté plainte contre Facebook, donc qui s'appelle 643, avait eu accès à des documents internes de Facebook, qui était aujourd'hui entre les mains de la justice américaine. Et lors de son voyage, lors du voyage du PDG à Londres, il s'est fait donc arrêter et on lui a demandé d'avoir accès à ses documents. Normalement, selon la justice américaine, il n'avait pas donné ces éléments, mais de crainte d'être emprisonné, dit The Observer, le PDG a donné tous ces éléments aux autorités anglaises et aux parlementaires britanniques. Donc aujourd'hui, visiblement, il y a des mails de Mark Zuckerberg sur l'affaire Cambridge Analytica qui sont entre les mains de la justice anglaise et on ne sait pas ce que ça va donner, mais il est certain qu'il risque d'y avoir des répercussions pour toute l'organisation de Facebook.
Et puis il y a eu aussi d'autres éléments auparavant, c'est-à-dire qu'on a appris, il y a eu une enquête du New York Times qui a révélé que en fait Zuckerberg, qui a quand même passé son temps à dire que il n'avait pas conscience et qu'en tout cas, il n'y avait pas de responsabilité de Facebook dans l'affaire Cambridge Analytica. Eh bien, il y a eu plusieurs révélations qui ont montré que, et Mark Zuckerberg est l'une de ses proches, la directrice des opérations de Facebook, j'ai encore oublié son nom, mais Sandil, mon Dieu, aidez-moi.
Sheryl
Sandberg, excusez-moi, avait probablement, alors ça c'est une enquête du New York Times, engagé un cabinet de conseil pour regarder et surveiller le traitement médiatique de Facebook et essayer potentiellement, ça c'est une vraie question, d'étouffer les gens qui se feraient écho du fait que Facebook jouait un rôle dans les... Facebook jouait vraiment un rôle dans les diverses élections. Donc il y a visiblement, et ça c'est une vraie conscience et de Mark Zuckerberg, des dégâts possibles et une tentative de les cacher. Donc en plus on est quand même sur un changement potentiellement assez radical de la manière dont on voit ce PDG sur ces questions-là en tout cas.
Mal Guiton.
Ça révèle quelque chose de l'évolution de l'opinion publique aussi, parce que le tout premier article du Guardian sur Cambridge Analytica et la manière dont cette boîte avait utilisé des données d'utilisateurs de Facebook, c'était en décembre 2015. Ça concernait non pas Donald Trump, mais la primaire républicaine et l'aide apportée à la campagne de Ted Cruz. Mmh. À l'époque, il y avait que les gens qui s'intéressaient un peu à la techno, etc., qui avaient tilté sur ce truc-là. Et quand le Guardian publie le témoignage du lanceur d'alerte de Cambridge Analytica, Christopher Wiley, en mars 2018, à ce moment-là, ça explose. Donc, on voit bien aussi qu'on est dans un moment qui est intéressant où ce genre de choses, probablement, on est arrivé au seuil de tolérance des utilisateurs.
Alors, question peut-être pour les uns ou les autres, maintenant sur les régulations, puisque compte tenu des problèmes nombreux, on voit aujourd'hui que Facebook est sous contrôle, il y a tout un tas de procédures en cours, d'enquêtes du FBI, du ministère de la Justice américain, de la Commission des Sécurités et des Échanges, de la FTC, le régulateur des marchés publics, de l'Union européenne, etc. On en est où? Que peut-il se passer? Évidemment, c'est des sujets très complexes. extrêmement nombreux les uns les autres. Qu'est-ce qu'on voit
Déjà aujourd'hui, Facebook veut ne rien se laisser imposer par les gouvernements. Donc la stratégie, c'est de prendre les devants. Pour prendre le devant, ils ont fait sauter quand même plusieurs fusibles durant tout cet été. Il y a plein d'exécutifs de chez Facebook qui ont été licenciés. Alors il y a eu Colin Stretch, qui a été le directeur juridique de Facebook, qui a été licencié. Il y a eu Dan Ross, qui était le VP, vice-président des partenariats. Il y a eu Alex Tamos, qui était le responsable de la sécurité, puisqu'il y a eu une faille de sécurité affectant Facebook il y a quelques temps. Et puis surtout, il y a eu Elliot Schrag. Donc là, on a eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. C'est le responsable de la vie privée chez Facebook. C'est lui qui a endossé...
dossier compris. Qu'est-ce que vous faites dans mon avis? Je suis responsable de la vie privée
exactement,
chez Facebook.
Exactement. Et lui, il a été donc limogé. Et c'est lui qui a pris la responsabilité du cabinet dont on a parlé précédemment, Definer. Il a dit que c'était lui qui avait embauché ce cabinet et que c'était lui le seul responsable. Donc c'est lui qui endosse tout alors qu'il est déjà parti. Donc ça permet à Facebook de mettre un petit peu la poussière sous le tapis. Et on voit aujourd'hui avec les annonces qui ont été faites en France, dont on reparlera peut-être un peu plus tard, de gérer Facebook et de contenir la haine qui circule sur les réseaux sociaux, que Facebook impose son agenda pour ne pas se le faire imposer, à savoir propose des solutions. Et quand on voit aujourd'hui que Mark Zuckerberg lui-même dit « je suis prêt à défendre la démocratie », ça veut dire qu'une entreprise privée est prête à défendre les grands pays comme les États-Unis et la France, ça pose aujourd'hui vraiment question.
Pour avoir aussi contribué à parfois détruire la démocratie. David Laveau, peut-être une question aussi dans les limites et les dérives, relations compliquées avec la presse, l'information sur Facebook, au fond, ça incarne la puissance du contenu que Facebook ne produit jamais, contrairement à d'autres géants du web, ils ne sont jamais allés dans la production de contenu, ils dialoguent avec les autres. Alors ça a été le newsfeed, c'est les stories maintenant, le newsfeed lancé en 2006, les stories près de 10 ans après. Il y a eu tout un passage avec ce qu'on appelle les instant articles, et là c'était l'idée de pouvoir rémunérer ceux qui produisaient des contenus de qualité, notamment les médias. Et on a de la peine à comprendre pourquoi Facebook n'a pas cherché finalement à rémunérer massivement et substantiellement les médias professionnels, ce qui lui aurait bien sûr évité peut-être de tomber dans tous ces problèmes de fake news.
Alors, il existe déjà des partenariats financiers entre des médias, même en France, et Facebook. Et Facebook a historiquement toujours échangé, soit avec des établissements de formation des grandes universités américaines sur la formation aux journalistes, sur des projets de réflexion sur l'éducation aux médias. Facebook à la base, c'était fait pour gérer des utilisateurs entre eux et les connecter entre eux. Et tout ce qui est depuis que les médias sont tous apparus progressivement sur la plateforme, Facebook on l'a vu, quelques difficultés à gérer cette croissance de flux informationnels. Et
d'une certaine manière, elle a du mal à savoir ce qui se passe sur ses propres réseaux. Et même quand beaucoup de gens contribuent à effacer des messages, il y a des centaines de milliers de messages sont effacés, mais face à l'océan et à la quantité incroyable de messages faux, etc., de haine, on voit bien que même les algorithmes sont incapables à agir sur ça.
En fait, on rappelait tout à l'heure quelles étaient les origines de Facebook, c'est-à-dire un truc pour mettre en réseau tes étudiants.
C'est de meufs et des mecs, en gros.
C'est devenu un réseau social total, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout le monde y est. Bon, c'est un peu exagéré, mais il y a quand même plus de 2 milliards de personnes, et donc cet espace-là est affecté par tous les maux de la société, et c'est parfaitement logique, c'est-à-dire la désinformation, les discours de haine, la manipulation, et d'une certaine manière...
Le chantage, les revanches...
Ouais,
les...
Et Facebook n'est pas outillé pour ça. Est-ce qu'il est possible d'ailleurs d'outiller un réseau social de 2 milliards de personnes pour ça? C'est une vraie question, on y reviendra peut-être, c'est-à-dire est-ce que c'est pas le modèle qui est problématique? Mais effectivement, c'est à ça qu'ils sont confrontés, et donc on trouve des rustines. Donc il y a à la fois, effectivement, il y a le bâton, c'est les réglementations, y compris maintenant aux États-Unis, il y a des parlementaires qui pensent qu'il faudrait un cadre, et même Zuckerberg n'ose plus dire qu'il est contre parce que ça devient extrêmement compliqué. Et puis il y a la carotte. Alors effectivement, ça va être typiquement cette histoire de co-régulation, comme l'a défini Macron, c'est-à-dire ne pas rentrer dans un rapport conflictuel en trouvant des espèces de modus vivendi.
On voit avec bien des la... régulations organisation nationale,
ouais,
cas par cas.
Ou alors des comités d'experts qui seraient représentants chacun d'un pays, parce qu'en plus, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils sont présents partout et que et tout ne pose pas les mêmes problèmes dans les mêmes pays, les lois ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que c'est eux qui ont un propre code d'éthique qui leur permet de retirer? Et d'ailleurs, la question s'était posée en 2015, il y avait une partie des salariés de Facebook qui voulaient retirer des propos haineux de Donald Trump, parce qu'en fait, ils sont tous pro-démocrates, ce qui pose aussi d'autres questions. En tout cas, ils se disent pro-démocrates, tous ces géants, et notamment une grande partie des salariés de Facebook, donc ils ne sont pas non plus personne. Donc, est-ce qu'on leur confie? Est-ce qu'il y a une co-gestion avec un comité d'experts? Est-ce qu'il est délégué par les nations, ce comité d'experts, plutôt par des juristes? Il y a qui? Les questions, les réponses sont absolument pas évidentes, ni pour eux, ni pour les États.
France Culture, 19h50, on parle de Facebook ce soir, Facebook sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures, Facebook à 360 degrés. Nous sommes avec Zoé Sfez de France Culture, David Lavaux, enseignant à Paris 10 Nanterre, Amaël Guiton de Libération et Emmanuel Paquette de L'Express. Je vous propose, après toutes ces critiques et ces difficultés de Facebook, terminons cette émission peut-être avec des aspects un petit peu plus à la fois positif, mais aussi serviciel, comme on dit, pour ceux qui veulent rester sur Facebook après tout ce que nous avons dit. Peut commencer avec vous, David Lavaux. Si on reste sur Facebook, comment est-ce qu'il faut être bien dessus? Alors,
je pense que tout dépend de ce qu'on veut y faire, ce qu'on va y chercher. En fait, déjà, je pense qu'un point important, c'est de savoir tout ce qu'on vient d'expliquer avant, c'est-à-dire si on comprend mal comment fonctionne la récupération de données, pourquoi on accède à Facebook gratuitement, on peut effectivement tomber dans des écueils en laissant trop de données ou des données trop personnelles à Facebook. Donc on peut avoir déjà une utilisation raisonnée en connaissant bien le fonctionnement de Facebook.
Tout ce qui est vie privée n'est pas privé sur Facebook, par exemple.
Oui, on pourrait commencer par ça.
On peut déjà conseiller, par exemple, de ne pas se loguer sur toute une foule d'autres applications par Facebook. Alors, par exemple, moi, je ne le fais jamais. C'est quand même un conseil de base.
Le problème, c'est que parfois, il n'y a pas tellement d'autres solutions.
Et dans ce cas-là, on ne se logue pas.
Facebook ou Twitter, parfois.
Non, en général, il y a toujours l'option renseigner son adresse email qui est déjà.
Ou téléphone portable.
Qui est un peu plus raisonnable.
Téléphone portable, je ne sais pas si c'est plus raisonnable.
Non, mais ceci dit, on voit aussi que sous l'effet du bâton, tout de même, il y a eu des améliorations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions. Moi, je me souviens des conditions d'utilisation de Facebook.
Vous lisiez les fameuses 50 pages, petits caractères en anglais.
J'avais essayé, et puis au bout d'un moment, effectivement, on a mal à la tête, on comprend rien, parce que tout ça a été évidemment élaboré
par des juristes,
à la virgule près, par des juristes, pour être le plus difficilement compréhensible. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Ils ont effectivement été tellement mis sous pression par notamment les CNIL et les gouvernements, etc., qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'un peu plus digeste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile de paramétrer la confidentialité de ces informations sur Facebook. Ça, c'est effectivement quelque chose auquel les utilisateurs doivent faire attention. C'est-à-dire, qui voit vos publications? Parce que ça peut être totalement public, comme ça peut être réservé à vos amis ou à un nombre encore plus restreint. Enfin, il y a quand même moyen aujourd'hui. Il y a une granularité qui est quand même aujourd'hui plus simple. Alors,
les recommandations d'Emmanuel Paquette sur comment être bien sur Facebook.
Au fait, ce qui fait la force de Facebook, c'est aussi ce qui fait sa faiblesse. Donc, c'est le nombre d'utilisateurs dont on ne fait que de parler depuis le début. Et aujourd'hui, il y a quand même des services du type Facebook Market qui permet de vendre en direct tout ce qu'on a chez soi et dont on ne sait plus trop quoi faire.
Même ses followers, on peut vendre.
Non, c'est des produits. Donc, ça, c'est un nouveau service de Facebook qui permet d'atteindre directement.
Sorte de bon coin, quoi.
Voilà, exactement. Mais avec un réseau et une taille qui est absolument délirante. Bon, alors, il se trouve que la police le surveille de très près parce qu'il y a aussi des ventes qui sont illégales sur ce réseau-là.
Il n'y a pas que dans le Darknet, en fait.
Et voilà, exactement. Ben même, ils voient le Darknet qui remonte sur Facebook Market. C'est la première fois qu'ils voient ce genre de choses.
On voit donc que Facebook est là en concurrence, par exemple, un peu avec Amazon sur les ventes.
Exactement.
En ligne.
Alors, c'est plutôt
comme elle l'est avec Google sur Google+, comme elle l'est avec Snapchat sur les stories.
Exactement.
On voit bien que ces géants du web sont aussi en concurrence entre eux.
Exactement. Et puis, l'autre point positif, c'est qu'on peut aussi maintenant créer des cagnottes sur Facebook. Alors, pas pour financer des actes terroristes, parce que là aussi c'est surveillé sur Facebook, mais on peut créer ces cagnottes comme on peut le faire aujourd'hui sur Litchi ou sur d'autres. Donc c'est un des nouveaux services lancés par Facebook. Et un troisième service dont on peut aussi un peu parler, qui est en test aujourd'hui en Colombie, qui est le site de rencontre, parce qu'aujourd'hui Facebook, il y a eu un célèbre post pendant la Saint-Valentin il y a 2 ans, sur lequel Facebook pouvait voir la naissance d'une relation amoureuse avant même qu'elle n'ait eu lieu. Puisqu'il se trouve que quand les gens se rencontrent dans une sphère privée, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font pour voir la personne ? Ils se loguent sur Facebook. Et donc Facebook voit que pour la première fois, vous avez une interaction avec une personne qui ne fait pas partie de vos amis. Ou d'amis d'amis.
Puis vous commencez à parler.
Et vous commencez à rentrer en contact.
Chaque semaine, etc. Et puis chaque jour, et voilà. Puis chaque heure. Et donc
exactement.
Quelque chose est en train
et
de
donc naître. Facebook voit émerger une relation amoureuse. Et il voit même la fin d'une relation amoureuse. Puisque à la fin.
C'est quand même effrayant.
On n'est plus amis. On n'est plus.
C'est eux-mêmes. Enfin, il suffit de lire les posts de blog sur Facebook. Ils décrivent très bien. La première partie, pas encore la fin.
Il a rencontré voilà, sur Facebook sa copine.
Non, pas du tout.
David Lavaux, comment est-ce qu'on a plus d'amis? Et comment on est plus lu sur
pour
Facebook?
Pour le coup, sur l'exemple des amis, je ne pense pas que le but de Facebook soit d'avoir plus d'amis. Si effectivement on a une page parce qu'on gère une entreprise, une marque, là on rentre dans des stratégies ou des volontés de conquérir plus de likes, plus de followers. Je pense que quand on utilise un compte personnel, l'idée, j'imagine, c'est souvent plutôt de voir ses posts adorer, avoir un succès parmi ses amis. voilà, si on s'intéresse aux pages, là, on est sur d'autres problématiques que sur des comptes utilisateurs.
Parlons de Facebook Live. Quels sont les contenus? Alors, Facebook Live, c'est un live, en fait, généralement en vidéo, en temps réel, hein, qui a lieu. Comment on poste des contenus et surtout, quels sont ces contenus, je dirais, live-friendly, qui sont plus favorablement aimés parce qu'ils sont live?
Alors, le live, ça a été poussé par Facebook il y a quelques temps. Il me semble que c'est quelque chose qui aujourd'hui se calme comme phénomène. En fait, ce qui marchait bien, en fait, c'est de montrer souvent l'accès à des choses qu'on pourrait pas voir ailleurs, tout simplement. C'est-à-dire, ne serait-ce que, je ne sais pas, les coulisses.
Ce studio, par exemple.
Voilà, par exemple, tout le monde rêverait de voir ce studio en live de l'intérieur.
Et d'ailleurs, on l'a fait.
On l'a fait, évidemment. Souvent, on le fait.
Aujourd'hui, en fait, le live, ça a été prolongement du succès des vidéos classiques. Et avec ce côté, ils ont rendu ça très, très facile. C'est-à-dire que lancer un live sur Facebook, à partir de son smartphone, ça prend à peu près 15 secondes, je pense. Et donc, il y avait ce côté très, très spontané qui permettait de donner accès à des choses normalement invisibles en un instant.
S'agissant de Facebook, les stories, phénomène qui est assez récent, mais qui a eu énormément de succès, puisqu'aujourd'hui, il est quasiment plus efficace sur Facebook ou sur Instagram qu'il ne l'est sur Snapchat, qui avait inventé le modèle. Alors, Instagram appartenant, on l'a dit, à Facebook.
Le vrai succès en termes de réseaux sociaux sur les stories, ça reste Instagram, évidemment. Mais Facebook a aussi lancé sur Messenger. Ça a longtemps été critiqué au début, comme quoi ça ne marcherait pas. Il se trouve que ça commence tout de même à prendre, et notamment pour les pages, en fait. Ça leur permet de mettre des contenus à destination d'un public assez large tel qu'il est présent sur Facebook.
Je vous propose un tour de table pour terminer cette émission. Une seule question pour chacun de vous quatre, rapidement. Oui, non, avec peut-être un petit commentaire. Est-ce qu'il faut finalement fermer son compte Facebook? On commence par vous, Amaël Guiton.
Bah, j'aurais tendance à dire comme sur Facebook, c'est compliqué. Ça dépend pourquoi en faire.
C'est le statut des relationships.
Ça, c'est plutôt en principe une réponse à la Express, pas trop à la Libération en général.
Bah non, mais c'est effectivement, après le scandale Cambridge Analytica, on n'a qu'une envie, c'est de fermer son compte. Le problème, et c'est le problème...
C'est que tous ses amis y sont, qu'on parle à sa maman sur Messenger.
C'est le manque d'alternatives. C'est-à-dire que, et on est confronté à cette difficulté qui est que Facebook a quasiment aujourd'hui une fonction de service public. C'est une espèce de d'agora, c'est l'endroit où on garde,
comme vous y allez,
on garde ses contacts. Bah, ils se sont créés cette fonction, mais aujourd'hui, c'est l'annuaire universel, Facebook. Et c'est là où on cultive aussi ce que les sociologues appellent les liens faibles. Donc ça a une vraie utilité. Ça a une utilité aussi quand on veut communiquer sur son travail, par exemple, quand on est journaliste. Donc moi, j'aurais tendance à dire quand on en a besoin, restons-y. Essayons d'y mettre le moins de choses personnelles possibles.
Ni paradis, ni enfer. Faire Emmanuel Paquette, est-ce qu'il faut faire
je vais faire la réponse de l'Express, c'est compliqué, oui. Non, mais effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de se couper d'un réseau d'amis qu'on a pu se constituer sur Facebook au bout d'un certain temps, des gens qui peuvent être éloignés géographiquement, avec qui on reste en contact en permanence ou très souvent. Il faut savoir qu'en moyenne, on passe 40 minutes par jour sur Facebook pour les plus grands utilisateurs, hein, donc c'est quand même pas rien, 40 minutes de moyenne
6h45 par mois au niveau global.
Exactement, donc c'est compliqué de dire du jour au lendemain, j'arrête tout, je ferme mon compte et j'arrête toutes les interactions. Sachant que, comme le disait Amaël aussi, c'est notamment aux États-Unis, mais c'est le cas en France, une des premières sources d'informations. Donc, c'est-à-dire que fermer Facebook, ça veut dire se couper de ses amis, mais c'est aussi de se couper de sources d'informations importantes, puisque beaucoup de journaux y sont présents, beaucoup d'amis poussent des articles dont on n'a pas forcément connaissance. Donc, cet élément-là de curation non plus, on n'y a plus accès. Donc, c'est quand même très compliqué. Sans rajouter, et si on ajoute Messenger avec ça, ben, très difficile de dire.
David Laveau, c'est compliqué.
Donc pour rester sur cette ligne du c'est compliqué, c'est la question est posée par le magazine OneNet cette semaine qui disait en fait peut-on quitter Facebook. Je pense qu'en fait c'est une des difficultés. On parlait tout à l'heure du Facebook Connect, c'est-à-dire quand vous connectez sur d'autres sites à partir de votre compte Facebook, par principe si vous supprimez votre compte Facebook, vous n'avez donc plus accès à vos comptes sur ces sites.
Moi je conclus en disant que je connais des gens qui l'ont fait et ils ont survécu socialement.
Et ils sont heureux.
Ils sont heureux. Donc moi je sais pas. Moi je pense que en l'occurrence.
Et puis il y en a même qui arrivent. Il y en a qui commencent.
Réponse personnelle, je pense qu'il faut déjà faire très attention, être effectivement très actif et sur Facebook et sur toutes les politiques de cookies sur lesquelles on vous demande et on vous pousse à vous prononcer, il faut le faire. Moi je garderai un regard de spectatrice. Je pense que je vais garder un profil un peu fantôme où je publierai de moins en moins. Moi plus que Facebook, c'est Messenger qui devient très critique. Quand on est journaliste, ça reste un moyen extrêmement rapide de contacter des gens et de conserver des contacts et des conversations à ces moments. Ça pose des questions.
Merci infiniment à vous quatre, Emmanuel Paquet de L'Express, Amaël Guiton de Libération. On vous retrouve tous les deux d'ailleurs dans le débat à 20h10. Merci à David Laveau, enseignant à Paris 10 Nanterre. Merci à vous Zoé Sfez qui dans un instant recevez toujours pour parler de Facebook votre invité innovation Rémi Durand.
Pas vraiment de Facebook, en tout cas de la Silicon Valley. Il s'appelle Rémi Durand.
Et de l'histoire.
Sociologue des sciences et des techniques. Il a publié un très bon livre qui s'appelle L'évangélisme technologique. Comment des hippies et des hackers sont-ils parvenus à créer des empires et un capitalisme high-tech ?
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de Facebook et du sport, ou la grande mutation des droits du sport. Pour aller plus loin sur Facebook, référence de cette émission, ce soir, article livre source à retrouver sur la page de Soft Power sur le site de France Culture. Je recommande en particulier l'article que j'ai utilisé pour préparer cette émission de Evan Osnos, Ghost in the Machine, un article publié il y a quelques semaines dans le New Yorker. Vous pouvez vous abonner au podcast de France Culture, de Soft Power sur France Culture, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power sur le site de France Culture.
Parce que nous, on est vraiment un service public.
L'application podcast de votre smartphone. Tout cela à suivre après Tilacine sur France Culture. Mamarca, ce nom ne vous dit sûrement rien. Il s'agit d'un petit village situé au nord de l'Argentine. C'est aussi le titre donné à ce morceau composé par l'artiste Tilacine dans ce village des Andes. Le jeune Français est actuellement en train de composer son prochain album dans une caravane aménagée en studio. Elle est très belle d'ailleurs lorsqu'on la voit sur Facebook ou sur Instagram, façon Into the Wild. Il se déplace, Tilacine, sur les routes d'Amérique du Sud en quête de sonorités nouvelles et d'inspiration. Et il sera de retour en France pour une tournée début 2019 qui se terminera fin mai avec une date à l'Olympia. Tilacine à l'instant. Il est 20h passé de 2 minutes sur France Culture.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Rémi Durand.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes, comme le dit la quatrième de couverture de ce livre que vous publiez, sociologue des sciences et des techniques. Car oui, et c'est important, vous êtes spécialiste des implications culturelles, politiques, économiques, des nouvelles technologies, notamment celles issues de la Silicon Valley, on a envie de dire en tout cas des nouvelles technologies. Vous êtes ingénieur et vous publiez ce livre qui s'appelle « L'évangélisme technologique de la révolte hippie au capitalisme high-tech de la Silicon Valley ». C'est paru aux éditions FIP, au FIP édition, dans une collection qui s'appelle « Reboot » et qui publie en général des livres assez intéressants dans cette matière qui est la nôtre aussi. Est-ce que vous pourriez peut-être tout simplement me donner une définition de ce que vous, ou ce que d'autres d'ailleurs avant vous, appellent l'évangélisme technologique ? De quoi on parle quand on parle de ça ?
Alors, on peut comprendre cette expression de deux façons différentes. La première, alors déjà, c'est pas une expression de moi, c'est une expression qui a été inventée par Apple au début des années 80. Et ça désigne en fait une méthode marketing. Et en fait, le but, ça a été inventé au début des années 80 pour le lancement du premier Macintosh. Et le but de cette méthode, c'est d'inciter des développeurs extérieurs à l'entreprise à créer des applications pour une plateforme donnée. Par exemple, pour le Macintosh, dans le cas d'Apple. Mais aujourd'hui, c'est une méthode marketing qui est utilisée par toutes les grandes entreprises de la Silicon Valley qui ont des plateformes à vendre à des développeurs, comme Facebook, par exemple. Donc, ça peut être utilisé pour un smartphone, pour une télé connectée, un réseau social, tout type de plateforme.
L'homme qui a inventé ça s'appelait Guy Kawasaki en français, c'est ça ?
Guy Kawasaki, c'est ça. Il avait été embauché par Apple justement pour inciter des développeurs à créer des applications pour le Macintosh. En fait, les développeurs, c'est un enjeu stratégique déterminant pour le succès d'une plateforme. Et donc, l'évangélisme technologique, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il intervient. Et la particularité de cette méthode marketing, c'est que elle joue en fait sur le rêve et sur la passion qui est censée susciter une plateforme donnée auprès d'un écosystème de développeurs. Voilà, c'est vraiment sur ce ressort-là que joue cette méthode.
Parce que vous le rappelez très bien dans votre livre, à cette époque-là, Apple n'est pas ce qu'il est et il n'a pas les moyens d'acheter, ou en tout cas de lui-même créer tout ça. Le but, c'est de créer du désir. Et votre livre, quand même, il revient un petit peu aux origines sociologiquement, vous êtes sociologue, la question c'est quels sont les liens aussi, très concrètement, entre la contre-culture qui existait à San Francisco dans les années 50-60, le mouvement hippie, et cette culture des hackers. Comment est-ce que ça devient, à un moment donné, la Silicon Valley ? Vous dites qu'il y a beaucoup à voir dans cette continuité temporelle et des idées avec la manière dont, en réalité, le marketing est devenu un enjeu majeur de la croissance de cette nouvelle technologie.
Absolument. En fait, cette continuité, elle intervient. Alors, elle se voit beaucoup au niveau du marketing, surtout avec Steve Jobs, qui était un peu un grand gourou du marketing de la Silicon Valley. Mais en fait, elle se voit à tous les niveaux du fonctionnement de ces multinationales. Et cette continuité, en fait, en quoi elle consiste, un peu rapidement ? En fait, la contre-culture, c'était un mouvement assez complexe, assez hétéroclite. Mais dans le mouvement hippie en particulier, ce qui était assez prégnant, il y avait deux choses d'assez prégnantes. La première, c'était le refus du capitalisme fordiste, de l'ordre établi. Et le deuxième, c'était en fait, à travers cette forme de révolte, c'était une sorte de quête spirituelle qui consistait en un désir de retrouver dans sa vie quotidienne une forme de magie, une forme, par exemple, de communion avec le cosmos. Et cette quête spirituelle, elle s'exprimait à travers différents types d'expériences, par rapport, par exemple, des expériences au LSD, avec des communautés comme les Merry Pranksters.
C'est ça, parce que vous rappelez quand même que tous ces jeunes développeurs, c'était pas des développeurs à l'époque, mais des hackers, et que pas mal d'ingénieurs du MIT ont fait des grandes expériences collectives comme ça, de prise de drogue, en fait.
Bien sûr, il y en avait beaucoup. Il y avait même, ça j'ai découvert ça, il y avait des centres qui étaient consacrés à faire expérimenter à des ingénieurs de la Silicon Valley du LSD pour les aider à mieux innover, à être plus créatifs. Voilà, donc le LSD, alors déjà c'était pas interdit à cette époque-là, avant 1966, donc ça posait pas de problème légal. Et puis, et Steve Jobs, c'était un bon exemple d'individu qui a baigné dans ces deux univers. Et alors, ce qui s'est transmis ensuite dans le monde entrepreneurial de la Silicon Valley, c'est cette quête spirituelle, ce désir de magie, d'extase d'une certaine façon, qui a su trouver un moyen de s'exprimer à travers l'innovation technique. C'est-à-dire que des gens comme Steve Jobs et beaucoup d'autres ont trouvé à travers déjà le processus de développement qui est un peu euphorisant et la présentation d'une technologie complètement disruptive comme le Macintosh, comme l'iPhone en 2007, comme beaucoup d'autres exemples, ça crée des expériences collectives qui sont très proches de celles qui pouvaient vivre pendant les acid tests, par exemple, en 1966. Et donc, aujourd'hui, un élément qui est tout à fait central dans des entreprises comme Apple et Google, hein, c'est surtout celle-là que j'ai analysée, c'est cette quête de disruption, cette quête de développement spectaculaire de technologies magiques. Et cette continuité, elle s'exprime à travers le marketing de ces entreprises, à travers aussi le design qui doit être le plus épuré possible, le plus spectaculaire, le plus séduisant, sexy, on pourrait dire.
Et c'est la grande force du Mac et notamment de l'iMac, vous le dites, c'est que alors que jusque-là les ordinateurs étaient des technologies, disons, ouvertes qu'on pouvait bidouiller, non seulement il est beau, mais en plus il est fermé, ce qui en fait un objet magique.
Oui. Oui, oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on recrée un objet magique, si on peut l'ouvrir, voir les cartes électroniques, et puis comment ça fonctionne, ça casse un peu la magie. C'est comme une sorte de profanation, voir ce qu'il y a derrière la scène. Et donc, pour maintenir cette sorte de pureté de l'expérience utilisateur, il faut la maintenir un petit peu fermée. Et c'est pour ça que Steve Jobs, avec une sorte d'obsession, un côté un peu maniaque avec le contrôle autour des technologies qu'il développait. Et alors, c'est expliqué par d'autres choses. On peut voir des mécanismes cyniques pour gagner un peu plus d'argent ici ou là. Mais c'était très lié à ce désir de créer quelque chose de très épuré, de très magique à travers ces technologies.
Et vous le dites, Steve Jobs, qui d'ailleurs, sur le deuxième aspect dont vous me parliez, quand il lance le Macintosh, il désigne l'esprit, l'ennemi à abattre, c'est IBM, qui à l'époque présenté comme Big Brother. Vous le décrivez bien, ce phénomène, dans votre livre, mais alors, là, aujourd'hui, on est en 2018, c'est-à-dire qu'on est quasiment plus de 50 ans, 40 ou 50 ans plus tard, au moment où toutes ces choses se rejoignent. Que peut-on dire aujourd'hui de l'évangélisme technologique? Est-ce que cette envie de créer de la magie est toujours présente, ou est-ce que à la fin, il ne reste plus que le marketing?
Alors, je pense que cette envie reste toujours au centre de ces entreprises. Alors, en fait, c'est très difficile de continuer à créer des technologies magiques, parce que il y a toujours un certain phénomène de surenchère qui est nécessaire pour créer de la magie. Une fois qu'on a révolutionné, et ça c'est ce qui est reproché à Tim Cook d'ailleurs, c'est que quand on a révolutionné le marché des ordinateurs, puis des lecteurs MP3, puis des iPhones, enfin, il faut toujours présenter quelque chose d'encore plus impressionnant pour continuer à créer une sorte d'extase. Si on fait quelque chose qui est au même niveau de en termes d'impression, on commence à s'habituer et la puissance initiale de la magie créée par les innovations s'affaisse un petit peu. Et donc ça, c'est tout la difficulté de Tim Cook.
Tim Cook, le successeur de Steve Jobs à la tête d'Apple.
Voilà, c'est ça. Mais je pense, enfin, quand on voit comment ces entreprises continuent d'évoluer, et même leurs successeurs, comme quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, qui est considéré comme le successeur de Steve Jobs, on sent qu'il y a toujours cette envie qui est au cœur de leur stratégie de créer des technologies révolutionnaires les plus impressionnantes possibles. Non seulement parce que c'est leur état d'esprit, mais en plus parce que c'est ça qui plaît aux consommateurs. S'ils créent des technologies moins séduisantes, leur chiffre d'affaires baisserait fatalement.
Mais alors techniquement, aujourd'hui, il y a quand même aussi cette inversion, c'est-à-dire qu'à l'époque, Apple était, on peut le dire, le challenger. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont concrètement toutes puissantes, et même si on parle techniquement, elles ont cette immense intelligence, avec cet évangélisme technologique, de donner pile ce qu'il faut aux développeurs pour qu'ils aient envie de développer pour leurs produits, mais pas suffisamment pour pouvoir renverser l'équilibre. Est-ce que cette position, disons, dominante de ces grands géants, que sont Apple, Google et, disons, Facebook, qu'est-ce qui reste, finalement, dans l'esprit de cette révolution hippie?
En fait, c'est un peu toute l'ironie de l'histoire de la Silicon Valley. Enfin, l'ironie, on pourrait dire même la contradiction qui est au cœur de la Silicon Valley. En fait, cette culture qui émerge un peu dans le mouvement hippie, ces spiritualités qui s'expriment par des quêtes de magie, de communion collective, etc., elle est toujours au cœur de ces grands mastodontes de la Silicon Valley. Au départ, elle s'exprimait à travers une certaine rébellion à l'égard du capitalisme moderne. Mais aujourd'hui, effectivement, alors... Aujourd'hui, donc, cette spiritualité qui s'exprime à travers un désir, une quête de disruption permanente, elle engendre, de par sa logique propre, de par la logique qui est née au cœur du mouvement hippie, elle engendre des nouvelles structures qui doivent être très puissantes pour créer des technologies magiques comme les nouveaux iPhones ou toutes sortes de technologies disruptives. Ça nécessite des structures très importantes et même leur désir messianique de changer le monde, les pousse à créer ces structures gigantesques, énorme, avec tous les travers qui vont avec, les inégalités que ça engendre au niveau mondial, la concentration des ressources, et même bon, il y a tout un tas d'effets qui étaient contestés par les hippies et qui réémergent dans ces sociétés de la Silicon Valley.
Merci beaucoup Rémi Durand. L'évangélisme technologique s'est paru aux éditions FIP dans la collection Reboot. Merci d'avoir été avec nous et vous continuez, je crois, Frédéric Martel, à enquêter sur Facebook.
Absolument, merci infiniment à vous Rémi. Durant le temps de vous recommander un livre, petit clin d'œil numérique, un autre livre en fait, L'apprentissage profond ou Deep Learning, ce livre anglais qui a paru fin octobre en français, a la particularité d'avoir été entièrement traduit par intelligence artificielle. L'opération a été réalisée grâce à Kindmetry et à DeepL. Au passage, DeepL, c'est une start-up allemande qui est en train de transformer la traduction grâce au deep learning et concurrencer déjà Google Traduction. Elle n'existe pas sur smartphone, mais vous pouvez l'utiliser éventuellement sur un ordinateur. Essayez, ça marche très très bien. Ça s'appelle DeepL. Bref, le livre a été traduit grâce à DeepL et à Kindmetry. Le résultat est assez bluffant, bien que le livre soit assez simple à traduire, hein, puisque c'est pas du tout littéraire. Vous pouvez juger par vous-même le résultat, L'apprentissage profond ou Deep Learning de Yann Godfellow, Joshua Bendio et Aaron Courville viennent paraître en français aux éditions Masso.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, on parle ce soir des droits sportifs dans lesquels vous allez le voir, Facebook veut être également un acteur de poids et nous sommes pour en débattre avec téméraire et résistant, Emmanuel Paquette de l'Express, Emmanuel Guiton de Libération.
Amael,
pardon. Résistant et combatif. Depuis 19h, on parle de Facebook dans Soft Power et on élargit un peu la perspective maintenant dans cette dernière partie de l'émission. Et ce soir, dans le club de la presse numérique, on s'intéresse aux droits sportifs et à la place croissante que prennent les grandes plateformes d'Internet dans ces acquisitions. Facebook, par exemple, diffuse en direct depuis le début de la saison l'intégralité de la Liga Espagnole, la première division de football en Espagne, la Ligue Espagnole, mais seulement à destination de 8 pays, notamment y compris l'Inde, le Sri Lanka et le Pakistan. Alors pourquoi ces entreprises se sont lancées dans la bataille des droits sportifs? On en parle avec Emmanuel Paquet de l'Express et Amael Guiton de Libération, qui sont restés avec nous, je l'ai dit. Emmanuel Paquet, pour commencer, peut-être un panorama des acquisitions en cours ou qui ont eu lieu. Amazon souhaiterait, par exemple, racheter 22 chaînes de sport à Disney.
Oui, effectivement, ça fait depuis un certain temps déjà qu'on voit les grands de la Silicon Valley intéressés par les droits sportifs, généralement des sports qui font consensus, hein, qui sont des grands sports aux États-Unis. Ça a commencé par la NFL, donc le football américain. Il y a eu la NHL, donc les matchs de hockey professionnels. Il y a eu un peu de NBA. Maintenant, on arrive directement sur les droits du foot. Donc, vous parliez tout à l'heure de la Liga, donc la Liga espagnole. Mais il y a déjà la première ligue qui est disponible aujourd'hui chez Amazon Prime. Il y a quelques matchs qui vont être diffusés à partir de septembre 2019, donc dès l'année prochaine, sur Amazon Prime. Et on voit effectivement que ce même Amazon, aujourd'hui, cherche à racheter 22 chaînes de télévision sportive à Fox, qui font aujourd'hui partie de la fusion Fox-Disney.
Alors là, ça a été imposé par le régulateur, américain.
Exactement. Donc, aujourd'hui, il y aurait au moins deux candidats qui sont d'une part Amazon, d'autre part le fonds d'investissement Blackstone. Le tout, ça serait pour une valorisation de l'ordre de 20 milliards de dollars quand même pour ces 22 chaînes. Alors ça ne concerne que les États-Unis puisque ce sont des chaînes régionales avec des droits régionaux, mais ça veut dire que Amazon aujourd'hui est intéressé par le flux, puisque pendant longtemps on s'est demandé comment les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon allaient attaquer la télé. Puisque aujourd'hui, le gros marché de la publicité, bien plus qu'Internet, c'est le marché de la télévision. Le gros du gâteau pour les GAFA aujourd'hui, c'est la télévision. Donc l'idée, c'est comment ils vont rentrer sur le marché de la télévision. Est-ce que c'est en entrant directement à l'intérieur des programmes télévisés, donc vous savez, avec des petites clés comme les clés HDMI qu'on pouvait brancher sur son écran de télé pour accéder à YouTube, etc. Ou c'est directement aller sur YouTube pour regarder des matchs, sur Amazon pour regarder des matchs. Donc visiblement, il y a un changement d'approche de la part des GAFA qui est aujourd'hui d'intégrer les droits du sport pour essayer d'attirer les internautes.
Amel Guiton.
Oui, puis pour le coup, du côté d'Amazon, là, ça serait même un changement d'échelle. C'est-à-dire parce que jusqu'à maintenant, on était plutôt effectivement dans des négociations l'obligation de droits de diffusion, alors souvent d'ailleurs en complémentarité, hein. Dans le cas de Twitter notamment, je crois que c'est surtout ça quand même. Là, il s'agit de racheter des chaînes. Donc on voit bien que on passe peut-être
à
une autre échelle, on passe un cap. En tout cas, effectivement, c'est une tendance lourde, j'ai l'impression, depuis au moins, je dirais, 2-3 ans, quelque chose comme ça, Emmanuel.
Ouais, exactement. On voit. Alors, c'est vrai qu'au début, ils mettent des petits tickets, parce que le problème, c'est un peu comme quand vous mettez le doigt dans l'engrenage des droits sportifs. Au début, ça vous coûte pas trop cher, et puis de plus en plus cher, donc ils y vont un peu à pas compter. D'autant qu'aujourd'hui, les ligues professionnelles se servent d'Amazon, Google, etc., pour faire monter les enchères en disant aux autres, donc aux chaînes de télévision classiques ou aux opérateurs télécoms, puisqu'aujourd'hui les opérateurs télécoms, notamment en France, diffusent des matchs de football, en disant attention, si vous y allez pas et vous mettez pas l'argent qu'il faut, y a Google, Apple, Facebook qui pourraient vous les prendre.
Qui vont le faire. Alors, quels sont les objectifs, au fond, pour Amazon, pour Facebook? Pourquoi être dans ce secteur? Qu'est-ce qui les motive à investir autant d'argent dans ce domaine, Emmanuel?
Il y a deux raisons. La première, c'est la publicité, puisque le gâteau publicitaire autour de la télévision aujourd'hui est un marché qui est bien plus important que le marché d'Internet encore. Donc, ce qui fait que ces acteurs-là ne sont pas encore rentrés sur le marché de la télévisée, donc de la télévision. C'est un moyen de mettre un orteil déjà dans ce marché-là.
Petit doigt de pied.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la social TV. Donc, c'est de pouvoir permettre en fait une interaction entre les internautes qui regardent le match en direct, qui puissent discuter, qui puissent échanger. Et surtout faire en sorte qu'il reste pendant toute la durée du match. Donc un match, ça peut être relativement long, et pas simplement 30 minutes.
Et puis ça crée aussi un rendez-vous d'une certaine manière, Amal Guiton. Vous avez un rendez-vous et là tout le monde va donc venir sur ces réseaux.
Pour le coup, c'est ce qui manque souvent aux réseaux sociaux. Un peu hors antenne juste avant, mais finalement les matchs sportifs, c'est les seuls grands rendez-vous qui restent finalement aujourd'hui, même encore devant la télé traditionnelle. Après, dans le cas d'Amazon, c'est aussi un moyen très probablement de renforcer leur fameuse offre Amazon Prime, leur offre de SVOD, y compris d'ailleurs en fidélisant leurs abonnés, parce que pour le coup, le rendez-vous sportif, c'est aussi quelque chose dont on peut potentiellement rester captif, me semble-t-il.
Facebook diffuse, on l'a dit depuis cette saison, l'intégralité des matchs de Liga espagnole, la première division espagnole, gratuitement et en direct à destination de l'Espagne et de 8 autres pays. Pourquoi Facebook se lance dans la diffusion d'événements sportifs avec cette première acquisition de droits importante, Emmanuel?
Alors pourquoi cette région-là en fait, plus que les droits sportifs? Parce qu'ils auraient pu racheter les droits un peu partout dans le monde. Alors d'une part parce que ces droits sportifs-là sont beaucoup moins chers quand on va en Asie, puisque le marché asiatique aujourd'hui sur le sport, c'est encore un marché à venir, un marché en pleine croissance. La Chine s'intéresse par exemple au foot, mais l'Inde, c'est pas le sport national. Ça commence à intéresser, mais c'est pas le sport national. Ça reste notamment le cricket aujourd'hui, hein, le premier sport en Inde. Donc ça permet de mettre la main sur des droits sportifs à un coût relativement faible. On parle aujourd'hui de l'ordre de 80 millions d'euros sur 3 ans pour Facebook pour avoir la Ligue espagnole.
Mais il n'y a pas une particularité de Facebook en Espagne acheter des droits pour le Sri Lanka, le Pakistan et l'Inde? Expliquez-nous ça.
C'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le simple relais de croissance de Facebook, avoir des nouveaux utilisateurs, ça passe nécessairement par l'Asie et l'Afrique. Donc pour aller en Asie et en Afrique, il faut séduire les internautes.
Et on le fait avec la Liga espagnole.
Oui, parce qu'aujourd'hui, ce sont des stars internationales. Aujourd'hui, par exemple, Messi, c'est aujourd'hui un des joueurs les plus connus au monde. Donc c'est plus simple de vendre la Liga espagnole, je pense, en Asie, que la Ligue française, par exemple, de football, même si ça peut changer, avec Neymar notamment. Mais là, il y a tellement de stars dans la Liga espagnole que ça peut attirer effectivement des utilisateurs de toute l'Asie. Par ailleurs, pour l'Afrique, Facebook a signé un deal avec Fox pour transmettre les matchs de boxe en direct, de tous les matchs de boxe qui seront diffusés en Afrique. Et donc, on voit que c'est un moyen aussi d'étendre le nombre d'utilisateurs en Afrique. Là, il y a un vrai relais de croissance, puisque c'est quasiment aujourd'hui 1 milliard, et demain, peut-être 2-3 milliards de personnes qui seront sur le continent africain.
Non, puis il y a aussi, je pense, des questions de calendrier. C'est que souvent, c'est des négociations qui se font pour plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que pas mal de commentateurs aux États-Unis voient le rachat potentiel des fameuses 22 chaînes sportives de Fox par Amazon. C'est que c'est aussi une manière de court-circuiter ces histoires de calendrier en pouvant diffuser des événements sans avoir à attendre les échéances de renégociation de droits sportifs.
Donc c'est... Avec ce sujet, il semble une fois de plus que le football, puisqu'on parle notamment de football, est au-dessus de la mêlée en termes d'intérêt pour les diffuseurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce phénomène se perpétue, s'accentue, Emmanuel ?
Je pense que là, pour l'instant, on voit que les grands acteurs testent un peu le marché, voir s'ils arrivent à séduire les internautes avec ça, créer de l'interaction entre les internautes pendant les matchs. Parce que ça, ça permet de les garder longtemps. Ça permet de dire aux annonceurs aussi, bah, regardez, les gens sont présents, restent bien présents devant le match, discutent autour du match. Donc on peut leur glisser des bandes-annonces, on peut leur glisser des publicités dans leur flux de discussion en même temps qu'ils regardent un match, ce qui n'est pas possible aujourd'hui à la télévision, hein, ou très peu encore. Donc ça permet d'ouvrir un nouveau marché pour ces GAFA et de commencer à venir à de s'attaquer directement à la télévision de flux. Donc on voit jusqu'à maintenant que la télévision de flux, donc TF1, France Télévisions, faisait l'inverse, hein, on commençait à proposer leurs programmes en télévision de rattrapage, et on voit qu'en fait les GAFA font le chemin inverse. Ils ont proposé en rattrapage plein de contenus sur YouTube, etc. Et maintenant, ils arrivent vers le flux. Donc, les deux sont en train de se percuter. Et je pense que la bataille, là, c'est qu'on en est qu'au début et ça va se faire à coups de milliards et très certainement autour du sport.
Est-ce qu'il y a aussi un enjeu pour ces plateformes à bien réguler la présence des contenus sportifs sur Internet, sur les plateformes ? Parce que par exemple, les images des buts, des matchs, elles arrivent très vite sur les réseaux sociaux, même quand les acteurs ne le souhaitent pas. Hein, tout le monde les captures d'écran ou ont des vidéos, etc. Et se mettent à se proliférer, à proliférer sur les réseaux sociaux, alors même que la valeur de l'acquisition des droits sportifs s'en est trouvée affectée. Est-ce que c'est, Amel Guiton, pourquoi pas une manière de lutter ou de prévoir de lutter contre le piratage ?
Ça peut être effectivement une manière proactive entre guillemets d'éviter des contentieux. Enfin, c'est ça pour le coup, c'est quand même aussi un grand classique de ces acteurs-là. Donc oui, ça, c'est on négocie pour éviter effectivement une question qui d'ailleurs se pose de manière assez récurrente pendant les grandes compétitions. Ouais.
Si on en revient toujours à cette fameuse directive qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, mais la fameuse directive européenne sur la question des droits voisins, si elle venait un jour à être appliquée au terme de longs débats, si elle était appliquée dans les conditions qui sont les siennes, à savoir que les plateformes seraient elles-mêmes obligées d'auto-censurer des contenus si elles n'avaient pas déjà conclu d'arrangements autour des droits, ça voudrait dire que
qu'il vaut mieux signer ses droits,
parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de vidéos du fameux but de nos petits Français dans la seconde où ils l'ont marqué, ce qui serait quand même problématique parce qu'évidemment ces images, on les a tous vues et elles ont généré un trafic absolument inouï sur Facebook et en l'occurrence, Facebook a tout intérêt à ce qu'il y ait des accords qui soient conclus, ou en tout cas qu'il ait une partie de ses droits, si ce type de texte venait non seulement à être voté en Europe, mais plus tard, qui sait, on peut l'espérer, à se généraliser ensuite.
Vous regardez juste les buts.
Hein, moi, je regarde que les buts. C'est pas vrai. Je peux regarder un match en entier s'il y a des gens qui m'aident.
Pour la finale de la Coupe du Monde, voilà. Comme moi. Emmanuel Paquette.
Bah, il se trouve que c'est vrai que même dans les stades où les gens regardent un match de foot, tous les opérateurs télécoms vous le diront, c'est au moment où les consommations explosent. C'est-à-dire que quand il y a un but.
C'est pas anormal, ça fait bon.
Bah, si, parce que normalement, vous avez payé votre ticket, donc le but du jeu, c'est de regarder ce qui se passe sur le terrain. En fait, les gens regardent leur écran. Il se trouve que dès qu'il y a un but, ils veulent voir le ralenti. Et ça, vous pouvez pas le voir sur l'écran. Donc si aujourd'hui, c'est un opérateur télécom qui vous le propose, mais demain c'est un opérateur Google, Apple, Facebook ou Amazon, c'est aussi aujourd'hui un moyen de les récupérer sur leur smartphone, y compris quand ils sont dans un stade en train de regarder le match en question.
Amel Guiton.
Ceci dit, c'est cette question-là, ça pose aussi la question de la répartition géographique des droits, parce qu'on voit bien que c'est compliqué, parce qu'on négocie par pays ou éventuellement par grande région, etc. Alors que c'est des acteurs qui ont plutôt pour mode de fonctionnement une diffusion mondiale. Donc c'est pas forcément simple pour eux de s'ajuster.
Pour rebondir sur ce que disait Amel, il faut savoir qu'au niveau de la Commission européenne, aujourd'hui, il y a une volonté directe de faire en sorte que les droits ne soient plus fragmentés d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que demain, un Français puisse s'abonner à Sky, par exemple, en restant à Paris, ou puisse s'abonner à des offres italiennes en restant à Paris. Alors aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les majors étaient contre. Mais là, maintenant, Disney, pour pouvoir fusionner avec Fox, a dit d'accord. Et il y a une deuxième major, dont je viens d'oublier le nom, a donné aussi son accord. Donc il est fort possible que l'Europe soit un des premiers pays sur lequel il n'y ait plus dans les années qui viennent, de droits qui soient pays par pays, mais sur tout le continent.
Dernière question brièvement, Emmanuel Paquette. France Télévisions a utilisé une technologie de Twitter pour retransmettre en direct des matchs du 15e de France pendant le tournoi des 6 nations.
Du 15e, pardon.
On pourrait dire du 13 aussi. Chez nous, c'est du 13.
En fait, toutes les chaînes de télévision aussi essayent de faire du social TV, de la social TV. TF1 a tenté de le faire, France Télévisions le fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les chaînes tentent aussi de leur côté de mettre en avant cette technologie parce qu'ils sentent bien que s'ils ne le font pas, il laisse la porte ouverte à Google, Apple, Facebook et Amazon.
Eh bien, on reste là pour ce soir. Merci infiniment d'avoir tenu ce marathon depuis 19h autour de Facebook et des réseaux sociaux. Merci à Emmanuel Paquet de L'Express. Merci à Emmanuel Guiton de Libération.
Décidément, toujours
à Maël Guiton. Voilà, ce soir, on est un peu fatigué après tout un tas de débats. Merci, Zoé Sfès, d'avoir été avec
merci
nous.
Merci à vous, Frédéric.
Tout au long de
merci
cette émission.
Tous.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power. Dimanche prochain, nous intéresserons aux apprentissages de l'informatique et du code. Tous codeurs, ce sera la question que nous poserons. Dans un instant, Vincent Charpentier et demain matin, émission des matins de France Culture sur la COP24 à ne pas rater. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.